Chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'émission Libre Débat, comme chaque mercredi de 16h30 à 18h. Aujourd'hui, pas d'émission en direct, je vous propose d'écouter la rediffusion d'un super plateau radio contre l'islamophobie qui a été fait par les camarades de Dégenré. Donc Dégenré, c'est une émission féministe de longue date de Grenoble que vous pouvez retrouver avec les 15 ans d'émission sur la plateforme radiorageuse.net. Je vous souhaite une bonne écoute.
Je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger. Dégenré pour déranger.
Une émission féministe
sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Et quand tu veux, sur radiorageuse.net ou campusgrenoble.org.
Bonjour, vous êtes bien sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Et on est là aujourd'hui pour parler d'islamophobie. Puisque une loi contre le soi-disant séparatisme, qui a été renommée loi confortant les principes républicains, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février, et que la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, de son côté, a demandé à ce que le CNRS mène une enquête sur un pseudo-islamo-gauchisme qui, je cite, gangrène l'université. Donc voilà, grosso modo, pour le contexte. On est aujourd'hui présente pour discuter avec des invités.
Oui, parce que le 21 mars, dans toute la France et donc aussi à Grenoble, il y a eu des manifestations contre la loi islamophobe et liberticide, entre autres à l'appel du Front contre l'islamophobie. Et ben, du coup, voilà, on a eu envie d'inviter, de faire un petit plateau pour donner la parole. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. En tout cas, bienvenue et merci.
Bon ben, Joudin, je suis maman de 4 enfants, je travaille, je suis militante féministe française, voilée, engagée et très déçue et en colère.
Alors, je suis Sabrina Chebbi, je suis cinéaste, documentariste, je travaille particulièrement sur l'histoire de la colonisation, son actualité et voilà. Je suis aussi concernée par les questions d'islamophobie.
Je suis Abby, donc je suis membre du FIQP. J'ai grandi en France et effectivement j'ai un peu de colère parce que je suis fatiguée de cette société qui rejette et qui rejette encore.
Alors, pour commencer, on a laissé traîner nos micros à la manif du 21 mars. On a fait un micro-trottoir et on vous laisse écouter ça.
Salut, aujourd'hui on est à la manif contre l'islamophobie. Toi, t'es venue pourquoi ?
Parce que je suis contre les discriminations. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venue.
Alors moi, je suis à l'UNEF, le syndicat étudiant. Donc on est là aujourd'hui parce que on pense que c'est très important de montrer que le racisme et l'islamophobie, ils ont leur place ni dans la société ni à l'université. Et que ça, pour nous, voilà, ça, c'est juste une forme de racisme sous couvert d'une pratique, d'une religion, et que personne doit être discriminé en raison de ses croyances ou de son apparence, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, de son genre, etc. quoi.
Pour tout ce qui est islamophobie aussi, parce qu'il y a plein d'actions menées contre les syndicats, comme on l'a vu avec l'UNEF.
Enfin, moi, j'ai pas envie dans mon pays des personnes soient discriminées, tout simplement, peu importe pourquoi, et que ça me semble grave, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on remet en question ce terme islamophobie. Alors que, voilà, comme je l'ai dit, on sait très bien que ça existe, et ça me semble très grave. De plus en plus de déclarations, de politiques qui sont menées à l'encontre de ces personnes-là, donc je pense que c'est important d'être ici.
Parce que l'État, il est raciste et il est contre ma vie, et donc j'ai pas trop le choix.
Vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Parce qu'on est musulmanes, voilà, et on en a marre, en fait, de toutes ces discriminations, et on est contente de voir qu'il y a autant de monde et autant de... qu'on peut tous vivre ensemble, en fait, voilà. Il n'y a pas que des femmes voilées aujourd'hui.
Bah, c'est un peu, je rejoins un petit peu ma collègue, c'est parce qu'en fait, on a envie de vivre ensemble et que ça reste pour moi des détails en fait. Hein. Du moment où il n'y a pas de prosélytisme qui est fait et que c'est vraiment pour, je parle pour une femme qui est voilée en l'occurrence et qui veut ramener sa compétence et toujours la renvoyer à sa religion alors qu'elle est là juste pour donner, enfin pour proposer sa compétence. Je trouve que c'est, j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a des problèmes tellement plus importants. Et on nous fait miroiter, quoi. Et on nous met les uns sur les autres, et je trouve ça triste. Et je trouve ça sympa que, du coup, qu'il y ait une communauté plurielle, et ça me fait plaisir, quoi. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important à parler aujourd'hui et en ce moment ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment réagir rapidement, parce qu'en fait... Plus largement, hein, le contexte liberticide, autoritaire et islamophobe et des politiques qui sont menées, finalement, il faut vraiment réagir parce que jusqu'où ça va aller sans qu'on réagisse. Donc j'ai envie de dire, réagissons tous et toutes.
Bah, par rapport aux dérives quand même du gouvernement, je pense que le climat du Covid et tout favorise un peu ces prises de position-là et ces initiatives. Et du coup, ça instaure un peu la peur aussi aux mobilisations.
Un peu tout, toutes les discriminations en général et le fait qu'on fasse une convergence de toutes les luttes. Après, je sais pas, dans tous les cas, je milite depuis que je suis enfant, donc c'est dans la nature des choses. Voilà.
Moi, j'ai un seul mot à dire, la liberté. Et la liberté, la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, la liberté de porter un voile, la liberté de s'habiller comme on a envie. Et il ne faut pas juger la personne par rapport à ce qu'elle porte ou ce qu'elle représente.
Moi, c'est la transparence, en fait. Que le gouvernement soit transparent et qu'il ne nous prenne pas pour des idiots. Et qu'il y a des choses qui sont fondamentales. Enfin, vraiment, essayer de comprendre ce que l'individu traverse et de l'écouter profondément. Et c'est des choses qu'on a l'impression d'occulter complètement et que voilà, on repart sur les profits, les gains. Et puis moi c'est ce manque de transparence où l'impression qu'il y a la manipulation nous prend pour des cons. Quoi. Voilà.
Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pas pour pleurer, c'est pas un discours de victimisation. Aujourd'hui, quand je vous vois devant moi, je me dis qu'on a espoir. Espoir de faire bouger les choses. Moi, j'ai espoir du changement. Est-ce que vous y croyez ? Oui ! Mon mot de la fin, c'est quoi ? C'est une demande de dignité. J'ai juste envie d'être digne et d'être respectée. Je demande pas un traitement de faveur. Je demande pas d'être accueillie avec un tapis rouge et des fleurs. Je demande juste d'être acceptée et d'être considérée comme tout citoyen et toute citoyenne. Est-ce que vous trouvez ça impossible ?
Non !
Alors, mon mot de la fin, c'est qu'on va tous crier ensemble du plus profond de notre cœur « Stop, stop à l'islamophobie ! » Vous êtes prêts ?
Oui !
1, 2, 3 !
Stop, stop à l'islamophobie ! Stop, stop à l'islamophobie ! Stop, stop à l'islamophobie ! Stop, stop à l'islamophobie !
On peut refaire l'histoire un peu de l'islam, des normes. Voilà. En gros, quand l'islamophobie en France, elle commence vraiment à se sentir dès que les lois liberticides et anticonstitutionnelles, elles commencent à être votées. Et dès les premières circulaires, hein, et tout ça, ça tourne autour du voile. Hein, dès la fin des années 80, le voile, en fait, c'est ce qui cristallise en fait, cette haine en fait, et cette construction du musulman en France comme problème et comme menace. Et en fait, on va se focaliser autour de la femme, autour des femmes musulmanes, à travers leur voile, leur tenue vestimentaire, et qu'on qualifie comme quelque chose d'oppressant pour elles, ces femmes qu'il faut sauver du patriarcat et tout ce qui les met dans cet état. Et en fait, dès le départ, avec les affaires en 89, avec l'affaire du foulard, en 2003, pourtant, le Conseil d'État, hein, il n'a jamais été d'accord avec l'interdiction du voile à l'école et tout. Il a toujours eu une position plutôt de médiation, on va dire, mais il a toujours inscrit en fait que c'était une atteinte à la liberté des individus, une atteinte à la liberté de culte, que d'interdire le voile aux personnes. Mais malgré tout, en fait, on voit que les politiques, ils ont toujours été dans l'offensive et ils ont à chaque fois fait des circulaires. On a vu la circulaire Bérou qui incitait en fait les établissements scolaires à inscrire dans leur règlement intérieur l'interdiction du port du voile, alors qu'en fait, c'est interdit, vu qu'il y a des normes quand même à respecter. Les droits fondamentaux, c'est pas... En France, à ce qui paraît, c'est quand même pas une plaisanterie, hein, faut quand même respecter. Mais c'est pas grave. En 94, à Grenoble, on a l'affaire du foulard, on connaît bien, c'est notre copine qui a été au cœur de cette affaire-là. La pauvre, elle s'est fait virer de son école et elle a dû faire passer son bac ailleurs. Il y a eu cette commission Stasi qui a tout fait pour qu'en fait ce voile, c'est quelque chose, c'est vraiment l'empreinte d'une atteinte aux valeurs de la République ou à une espèce d'idée de la nation qu'on se fait. Et comme ça, on voit comment on évolue vers une espèce de propagande comme ça qui est insufflée à travers les médias, parce que les médias, ça a été vraiment un outil, hein, pour diffuser cette propagande, et qui entrait dans les foyers via la télévision, et pour vraiment changer une mentalité en France et faire prendre conscience aux gens que c'est comme ça qu'il faut penser. Et pas autrement. Et quand on voit une femme voilée, eh bien, forcément, c'est une personne qui est potentiellement une citoyenne de second rang et quelqu'un qu'il ne faut pas respecter. Alors, dans les actes, dans le bus, on t'insulte, dans la rue, on t'arrache ton voile, on peut te scarifier, on peut te... Voilà, ça a des conséquences, hein, en fait, toute cette propagande, hein, dans la vie des gens. Ce n'est pas juste de la politique, des articles de presse, c'est que dans la vie de tous les jours, les gens, ils ressentent cette violence. Nous, on a des enfants qui ont vécu avec une vision de leur mère extrêmement dégradée par la société. Et ça crée des dommages quand même. Hein. Il faut quand même être fort derrière pour assurer une éducation, hein, pour ces enfants, qu'on continue à les éduquer avec les valeurs communes, hein, pas juste de valeurs de musulmans, hein, c'est juste de maman qui veut transmettre des vraies valeurs à ses gosses. Il faut y aller, hein, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, ils se ramassent des choses très violentes. Et du coup, en 2011, on arrive avec une véritable... Enfin, quelque chose d'assez nouveau, puisque la loi contre le niqab, qu'on appelle la loi contre la dissimulation du visage, c'est une interdiction absolue d'exercer une liberté, ce qui n'est pas dans la tradition des règles en France. Et c'est ça qui choque, en fait. Et on a vu beaucoup de gens, des avocats, pas musulmans, hein, des gens qui défendent le droit, aller contre cette loi, parce que vraiment c'est une interdiction absolue. Et c'est pas juste quand on est en face à face avec l'école, le banquier, le commerçant, où on demande à la personne de montrer son visage. C'est une interdiction absolue de circuler dans cette tenue que les femmes choisissent pour la plupart, mais bien entendu on fera passer l'idée que derrière il y a un tyran qui l'oblige à se voiler complètement et encore des offensives. Alors, quelque chose, encore une fois, où on a vu le droit, comment il a été, encore une fois, instrumentalisé, et mais complètement dévoyé, c'est quand il y a eu la loi pour les nounous qui travaillent chez elles. et à qui on a voulu imposer une déclaration d'appartenance religieuse, chose qui est interdite dans le code du travail, chose qui est interdite dans les droits fondamentaux. Et je veux dire, c'est une atteinte aux droits des personnes. Et pareil, le Sénat, à chaque fois, il arrive avec des amendements, des choses, mais complètement farfelues, racistes, sexistes aussi. Parce que là, en fait, on porte atteinte à la personne qui travaille dans son domicile. Et c'est-à-dire que cette personne, elle devait déclarer qu'elle portait un voile, que c'était une musulmane. Imaginez demain, on va chercher un travail, on va dire « Excusez-moi, je suis à Solidaire, non, je suis à FO, ça vous dérange ?»« Non ?»« Bon, bah vous me dites, hein, parce que sinon, je supprime mon adhésion. » Enfin, quand même, là, on est dans le fascisme. Voilà, là, c'était clairement un pas, vraiment une belle avancée là-dessus. Hein. Et pareil, ensuite, une offensive, encore une fois, et toujours les femmes. Hein. 2012, un projet de loi contre les mamans accompagnatrices lors des sorties scolaires. Quand on fait ça, on attaque encore une fois nos enfants. Nos enfants n'ont pas le droit d'avoir, juste comme tous les autres enfants, leur maman qui accompagne lors d'une sortie. Enfin, je veux dire, s'il y a un problème, moi j'ai vu lors des sorties scolaires, des parents posaient des problèmes parce qu'en fait ils se prenaient pour des profs. Ça, c'est un problème. Donc moi, je veux bien qu'on règle ce problème. Mais le voile, juste parce que des mamans sont voilées, c'est juste hallucinant. Et puis il y a des quartiers où il n'y a que des mamans voilées, où la plupart des femmes qui restent à la maison parce qu'elles ne peuvent pas travailler sont des femmes voilées. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où même les enseignants ne souhaitaient pas l'avoir, cette mesure. Parce que clairement, ça allait créer vraiment des gros soucis. Donc on s'en fiche. On continue dans cette offensive. Là, dernièrement, en 2019, un truc aussi qui a fait bondir et qui fait penser à une forme de macartisme et aussi à une certaine époque où on a voulu, on avait envoyé dans les universités des tableaux Excel, enfin l'éducation nationale avait envoyé des tableaux Excel pour que les enseignants disent voilà, un tel il est absent le vendredi après-midi, l'autre il a fait pousser sa barbe, elle s'est mise à porter un voile. Et là il y a eu un lever de bouclier aussi, heureusement, des universitaires qui ont refusé de remplir ces tableaux. Du coup, ensuite, ils ont très rapidement mis ça sous silence. Les médias, ils ont très vite calmé cette histoire-là. Mais là aussi, c'est une offensive hallucinante. Mais en fait, ça dit beaucoup de choses en fait, sur la France, qu'elle est devenue. Elle psychote, elle devient... Enfin, y a, à certains égards, ça fait peur. Voilà, ça, c'est ça qui me fait peur et qui me met en colère. Et du coup, voilà, on pourrait encore... Et alors là, le meurtre de Samuel Paty, et allez, on va le dire ici, parce que bien sûr qu'on est choqué de ça. Enfin, je veux dire, comment on peut imaginer qu'on ne puisse pas être choqué d'une chose aussi horrible. Mais ça a permis une déferlante de mesures dont je pense certains politiques en rêvaient pour pouvoir mettre la main sur les associations, mieux les contrôler, et pas que les associations musulmanes. Alors très rapidement, on a vu un effet sur le CCIF hein, qui a été dissous, mais alors ça, c'est un scandale, mais personne ne dit les mots qu'il faut pour dénoncer ce scandale, c'est-à-dire on a dissous une association qui lutte pour l'égalité des individus en France. C'est ça qu'on a fait. C'est ce qu'on a voulu faire. Ils ont plié bagages, ils sont partis se créer en CCIE. Maintenant, ils ont une portée européenne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une absence d'associations proches de nous pour nous défendre. Il y a le CRI, il y a la coordination contre le racisme et l'islamophobie, dont je suis aussi adhérente. Mais pour moi, c'est encore une fois une atteinte à mes droits les plus fondamentaux. Il y a eu la dissolution de Baraka City avec la saisie de tous leurs fonds. Ça aussi, c'est une association qui faisait de l'humanitaire. Allez voir ce qu'ils ont fait dans le monde. Et grosse question. Donc aujourd'hui, on se retrouve en plus avec la loi séparatisme, peut-être qu'on en reparlera après, je ne vais peut-être pas tout dire, mais là encore une fois, à chaque fois, on se dit « bon, ben ça y est, là, on a fait le pire ». Mais en fait, moi, aujourd'hui, je me dis « on n'a pas fini ». on n'a pas fini parce que la dernière fois j'entendais le président Macron qui parlait avec l'histoire des mosquées là de Strasbourg, enfin dans voilà, et j'entends le prochain débat qui arrive. J'ose même pas le dire là pour pas qu'il le pompe. Mais je me dis, le prochain débat, ça va être un truc vachement de l'extrême droite, le registre de Marine. Hein. Je pense que Darmanin, il va y aller en sautant. Mais la question de la double nationalité, aujourd'hui, ça va poser question. Parce que ces gens-là qui, en fait, font écoutent ce qui se passe de l'autre côté de la France et qui pourraient potentiellement venir faire voter toute une communauté et tout parce que Erdogan aurait dit... Là, je me suis dit, attention, là, en fait, c'est un truc, encore une fois, nauséabonde qui va arriver. Mais j'essaye de voir jusqu'où ça peut aller. Ben, parce que, je suis désolée, mais on a vu dans l'histoire française où on peut aller, en fait. Et la limite, elle est terrible. Enfin, et je trouve que l'histoire, en fait, en France, on n'en a pas tiré l'expérience, en fait, de cette histoire. Et c'est dramatique. Et c'est ça, moi, que je trouve dramatique, et c'est ça qui me met en colère. Et le message que j'aurais envie de lancer, c'est de dire, en fait, on ne se bat pas pour le droit des femmes musulmanes à garder leur voile ou pas. On n'en a rien à cirer de ça, du voile, de comment elles s'habillent. En fait, on est juste en train de dire, le droit, en fait, aujourd'hui, il est atteint. Il y a un cadre aujourd'hui qui est atteint. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que le droit, il est là pour protéger. De toute façon, ça fait longtemps qu'on peut plus le dire, en vrai. Mais là, en fait, c'est tellement visible et c'est tellement mis à la vue de tout le monde à la télé, dans les papiers, enfin, les réseaux. Enfin, réveillons-nous. Enfin, réveillez-vous, merde. C'est un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, à la limite, pour défendre nos libertés fondamentales. Et aujourd'hui, ce droit, il est instrumentalisé par une bande de fachos qui ne disent pas leur nom et qui, aujourd'hui, produisent des lois liberticides. Mais en fait, ces lois, nous, en fait, on est juste le laboratoire. Les musulmans en France, on est juste un espèce de laboratoire. On est en train de tester comment on réagit pas à des choses graves. On est en train de nous contrôler. On contrôlera les associations. On est en train de nous imposer un islam de France, machin. Mais en même temps, on va imposer une façon de faire aux associations, qu'elles soient musulmanes ou pas. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se répandre dans la société. Et c'est ça. Et c'est là-dessus qu'il faut être en colère. Et c'est là-dessus qu'il faut se réveiller. Voilà.
Merci. Vous êtes bien dans Dégenré sur Radio Campus 90.8. Et c'est le moment de la pause musicale. T'avais une envie ?
Quelque chose autour de Rachida, Sarkou, ça recommence.
L'on regarde ailleurs. Voilà, voilà. là-dessus, c'est sur la façon dont les musulmans sont traités. Ben, aujourd'hui, c'est les musulmans, avant c'était les immigrés. En fait, on trouve toujours une nouvelle. L'État français trouve toujours une nouvelle catégorie à coller. Tout ça, c'est une instrumentalisation pour cacher toutes les problématiques sociales qu'il y a dans ce pays et tous les mouvements sociaux en fait, qui étaient en train de monter ces dernières années. Mais même, on peut reprendre sur ces dernières décennies. En fait. Depuis toujours, les musulmans, ils sont pris en otage. Là, on est pris en otage, en fait. Et en fait, on est pris en otage dans tous les aspects de notre existence, en fait, dans la façon dont on peut exister de manière culturelle. Mais en fait, on nous renvoie à un aspect de notre culture. Ça aussi, on peut expliciter aussi. On n'est pas que des musulmans, on n'est pas que des immigrés. En fait, on est des êtres qui sont constitués d'une variété d'aspects. L'aspect d'abord social, le travail, le salaire, le logement. Et l'aspect culturel, on appartient à différentes aires culturelles, différents pays, et on peut aussi assumer ça. Et souvent, le pays auquel on appartient, ou le pays de nos parents, c'est un pays qui a été dominé économiquement et culturellement aussi. Et ça aussi, c'est pas rien. On est dans des situations précaires juridiquement. Donc, pour certains, il y a des personnes qui n'ont pas, et des musulmans qui n'ont pas la nationalité, et des personnes, du coup, qui sont renvoyées à une situation d'exclusion extrême. Et pour ceux qui ont la nationalité, c'est une situation précaire qui est seulement atténuée. Parce qu'on est toujours considéré de toute façon depuis le début comme des immigrés de nationalité française. Et voilà, donc tout ça en fait c'est des éléments qu'on ne veut pas prendre en compte, on ne peut pas exister. Et aussi l'aspect politique que j'ai oublié, la représentation politique qui est nulle, qui n'existe pas. En fait, on n'a même pas les moyens de se défendre politiquement. L'hémicycle n'est pas constitué, ou alors quand c'est constitué, c'est une des personnes qui sont instrumentalisées en fait pour abaisser aussi... la communauté d'où elles viennent ou les quartiers ou la classe populaire d'où elles viennent. Donc elles doivent systématiquement se distinguer de la classe sociale d'où elles proviennent ou de leur origine. Et voilà, en fait, toute cette politique-là, cette prise d'otage, en fait, elle a été mise en place aussi pour occulter. Donc ça, il faut aussi que la gauche et les mouvements de gauche réalisent que leur lutte, elles ne peuvent pas avoir lieu tant qu'ils ne prennent pas en compte la question de l'islamophobie. Parce qu'en fait, on est le prétexte en fait, pour que toute la casse sociale de ce pays ait lieu avec ce qui se passe en ce moment sur la réforme du chômage, etc. Et ça a eu lieu précédemment. C'est une habitude que la France opère systématiquement.
Et pour compléter encore ce qu'elle disait, c'est qu'économiquement, ça entraîne une grosse perte pour la France, puisqu'on est rentré, la France est rentrée dans une ère ultra-libérale, c'est que ça entraîne aussi la fuite des cerveaux. Parce que mine de rien, tous ces enfants dits d'origine immigrée ou étrangère, peu importe comment on nous qualifie, bon, on est simplement des Français, hein, et du coup, on fait des études, parfois ont été boursiers, sont formés, sont compétents, très compétents, innovants, très innovateurs. Et qui c'est qui récupère ces pépites ? Et ben, du coup, ce sont les pays étrangers, style le Canada, style les États-Unis. Vous allez voir la diaspora française aux États-Unis. Nous, on est français qu'à l'étranger. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est impressionnant. Toute notre jeunesse, toute cette jeunesse formée, partent à l'étranger et comme je le disais, c'est le Canada, les États-Unis, les pays du Golfe, la Chine, beaucoup, la Chine qui les récupère et certains envisagent aussi de retourner dans le pays d'origine de leurs parents. Donc ça aussi, la France économiquement ne prend pas conscience de cette perte. Et je vous assure que quand ils partent, contrairement aux Français, à nos compatriotes blancs, on va pas se mentir, blancs, eux ils reviennent pas. Ils reviennent pas parce que pour une fois, on a reconnu leur humanité, leurs compétences, et t'es pas rejeté parce que tu t'appelles Mohamed ou Fatoumata. Et ça, c'est très important. Ils ont la liberté d'être ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi la France refuse cette société inclusive qui ne peut que lui apporter, entre guillemets, une certaine grandeur, parce que je pense que la France est restée figée au temps de son empire colonial, esclavagiste, etc., et qu'elle a du mal à se rendre compte, tout empire arrive à son apogée, et à un moment, il y a le déclin. Et il faut qu'on se le dise, la France est en déclin. Donc ensuite, il y a cette peur de la théorie qu'on a balancée il y a quelques années, moi, j'ai pas la mémoire des dates, la théorie du grand remplacement, où du coup... on va tous venir, on va remplacer, machin, etc. Non, les gens, non, absolument pas. L'idée me paraît tellement absurde que moi, à l'époque, j'ai pas accordé plus d'importance que ça, tellement ça me paraissait absurde. Mais après, bon, je sais pas, je vois les politiques, pour moi, c'est une poignée qui essaye de semer la haine, du coup, pour, comme elle disait Sabrina, occulter les problèmes essentiels et la construction économique et sociale de ce pays qui est de plus en plus en danger, le système de santé. Aujourd'hui, on doit affronter le Covid qui a entraîné des dégâts, qui a précarisé énormément de gens. Moi, j'entends pas parler de ça, mais on est focalisé sur la jeune fille qui va à la fac avec un foulard sur la tête. Des fois, j'ai l'impression que je suis dans un film, en fait, où je fais un cauchemar et que je vais me réveiller. Ça me paraît surréaliste. Et comme tu disais, quand j'ai l'impression qu'on a atteint le paroxysme, boum, il y a une autre bombe qui éclate. Et moi, le deuxième élément qui me fatigue aussi, c'est cette histoire d'essentialisation, où j'ai l'impression qu'on nous demande à chaque instant de justifier ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Je reviens à l'époque où on s'était rencontré Judas, c'était quand il y avait eu Charlie. Ça avait été un tel déchirement. Et je vais vous raconter une anecdote. Je venais d'arriver dans l'unité dans laquelle je travaille et j'ai une collègue de boulot, syndicaliste, qui m'appelle et qui me dit, alors mon nom de famille c'est Koulibaly, je l'assume avec fierté, et qui me dit, mais Abby, est-ce que tu sais ce qui vient de se passer ? Donc du coup, j'ai dit oui, je sais ce qui vient de se passer. Elle me dit, c'est grave, hein ? J'ai dit oui, Jacqueline, elle s'appelait Jacqueline. Je dis oui, Jacqueline, c'est grave, c'est même très grave. Oui, mais c'est très 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 grave, tu te rends compte ? Donc du coup, je dis oui, c'est grave, c'est très 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 grave, je suis d'accord avec toi. Je dis mais maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, mais il s'appelle Koulibaly, c'est ton frère, c'est ton machin, etc. J'ai dit, tu sais quoi ? J'ai dit, combien même ce serait mon fils ? Est-ce que tu penses que je suis responsable des actions des autres êtres humains ? Est-ce que toi, t'es responsable ? D'accord ? Des membres de ta famille, de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur et de ton fils. J'y quand bien même, Jacqueline. Quand bien même. Comment tu oses ? Comment tu oses ? Et elle m'appelle chez moi sur mon numéro privé, en dehors du boulot. Ce n'est pas une interpellation qui a eu lieu sur le lieu de travail. Je suis rentrée chez moi, c'était un vendredi, j'avais la tête comme ça, parce que tout le monde te regarde en te disant « Hé, explique, mais je suis désolée ». Mais quand il y a eu des faits divers où on voit une bonne femme qui a mis son bébé dans le congélateur, est-ce que toutes les femmes blanches, on leur a dit « Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais c'est horrible !» Est-ce que toutes les femmes blanches se sont dit « Ah, mais nous, femmes mères, mais c'est horrible, on est horrible !» Ah ben non, mais il faut qu'on explique. Alors elle a fait, c'est très mal ce qu'elle a fait, mais nous, on ne fera pas ça, on condamne ce qu'elle a fait. Non, un individu a commis un acte grave, la société doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, etc. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir une réflexion collective et qu'on arrive à sortir de ce putain de racisme primaire, en fait.
Mais on a tous, je crois qu'on a tous vécu un peu la même chose, mais en fait, on a dû à un moment donné expliquer comment, en fait, on pouvait aller tuer des gens. Donc, il y a eu Charlie Hebdo, mais il y a eu le Bataclan. Donc, quand il y a eu le Bataclan, il fallait qu'on explique comment c'était possible que des gens comme nous pouvaient aller faire ça. Hein. Et en fait, on est tellement dénié dans notre françaisité, notre citoyenneté, tout ça, qu'en fait, on se permet de nous poser cette question parce qu'en fait, on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les Français, entre guillemets. Et du coup, nous, on a la réponse à cette violence. Et on a tous eu à répondre à cette espèce de question qui n'était pas posée directement. S'il te plaît, tu peux m'expliquer, toi, la musulmane, comment c'est possible que ces mecs-là, ils aient fait ça ? Mais on se croit où, là ? En fait, on a été des victimes collatérales de tout ce qui s'est passé. Et ça, les gens, il faut qu'ils l'entendent. Et il y a eu des victimes, les victimes collatérales, les familles, tout ça. Nous, on était effondrés, les militants et les militantes. On était effondrés parce qu'en fait, c'était des années de lutte qui partaient en live ce jour-là. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, on est tous rentrés chez nous pleurer. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais au travail, on m'a demandé de rentrer chez moi tellement je pleurais. C'était énorme, c'était vraiment... Enfin, voilà. Et je crois que j'ai oublié la loi 2004. Et je ne l'ai pas dit, et du coup, c'est la pire. C'est celle qui nous a... Je crois que j'ai fait un déni. Enfin, j'ai fait une censure, je ne sais pas. Mais la loi 2004, elle nous a achevés. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, ce qui se passait, en fait, moi, je me souviens, à l'époque, je n'étais pas dans le militantisme, j'étais en train d'élever mes petits-enfants, ils étaient tous petits et tout. Premier truc qui me venait en tête, c'était « punaise, on est en train de me voler ma citoyenneté, on est en train de m'enlever une de mes identités ». Parce que quand une personne est née dans un pays, il a traversé une histoire, il a grandi avec des Pierre-Paul Jacques et Catherine et des machins et des Nadia et des Fatima, et qu'on lui dit « ben toi maintenant c'est fini, l'école c'est ça, ou sinon t'es pas français, t'es pas française ». Mais ça a été d'une violence. Mais je crois que, en fait, toutes les autres lois, elles ont été violentes hein, pour nous. Mais la loi la plus violente, c'est celle de 2004. En plus, tout le monde le sait, c'était une loi qui était basée sur rien. Les sociologues l'avaient dit, c'était des épiphénomènes à l'époque. Il n'y avait pas tant de personnes voilées dans les écoles. Il n'y avait pas lieu de légiférer. Il y avait les sociologues pour le dire. Il y avait des tas d'enseignants aussi qui pouvaient régler ces histoires et tout. Et ils ont décidé de la faire, cette loi. Ils ont fait cette loi parce qu'en fait, c'était l'offensive. Ils se sont mis en posture de guerre contre un mythe, contre une espèce d'invasion, de machin. Enfin, en tout cas, c'est le discours qu'ils avaient envie de faire passer. Et ça, je pense qu'on l'a... Ça a été aussi violent que Charlie, le Bataclan, Samuel Paty, enfin voilà. Et le discours de 2010, Sarkozy, symboliquement, ça dit ce qu'on représente, en fait, dans la société. Ce que les descendants des pays colonisés, en fait, comment on est vu et comment on sera toujours vu d'une certaine manière, c'est-à-dire comme avec le code de l'indigénat, hein, on est des Français musulmans, hein, des Français, mais...
Bah là, avec la loi séparatisme, on retombe officiellement dans le statut de Français musulman de l'Algérie française. Là, c'est officiel, on va nous replacer dans une situation... Enfin, on va dire que c'était officieux avant. C'était déjà le cas, mais là, ça va être officiel. Avec un ensemble de directives qui nous concernent, qui sont attribuées, enfin, en fait, c'est une loi complètement... qui nous replace dans ce statut-là, en fait. Et sur la loi, quand vous parliez des conflits, justement, moi, ça me fait penser, enfin, tous les conflits qu'on a eus à partir de Charlie, les attaques qu'on a eues individuelles. Alors moi, c'est marrant, avec un ami, on a reçu le même article de plusieurs personnes qui nous demandaient de nous positionner, que c'était un article qui critiquait l'islam, et c'était un article qui avait été écrit par un Algérien. Donc on nous disait, regarde, il y a un Algérien qui a écrit ça, vas-y, positionne-toi. On a reçu le même article le même jour. Et ça a été des semaines comme ça où on a été attaqués individuellement de toutes parts. Et où des conflits, moi ça a été vraiment une série de conflits à partir de là. Et en fait ça me fait penser à justement à la loi de 2004. Apparemment ça a été la même chose. Moi je ne l'ai pas vécu comme je suis plus jeune. Mais j'ai pas vraiment de souvenirs, mais ça a été vécu de cette manière-là par beaucoup de personnes, justement, parce que le débat, du coup, qui a été mis en place sur le voile, enfin, un débat nauséabond qui a été mis en place par le gouvernement, qui n'était pas un débat, en fait, qui était juste un lynchage de la population musulmane, il a créé des conflits au sein des familles, au sein des quartiers, au sein du pays, dans tous les sens. Et j'ai l'impression que c'est le début, en fait, d'une volonté, en fait, de l'État de nous mettre dans des situations comme ça, de conflictuelles, de ne pas pouvoir s'organiser, de ne pas pouvoir discuter, de vraiment diviser, mais au sein même des familles, au sein même des groupes, au sein même, enfin, dans tous les sens, en fait. Et ça a vraiment fonctionné. Et Charlie, c'est devenu vraiment valider ces conflits-là. Parce que là, à partir de là, moi, je vois vraiment une série de conflits qui a commencé, c'est à partir de ce moment-là.
C'est là où les quartiers populaires ont été qualifiés de zones de non-droit. Enfin, il y a eu un vocabulaire guerrier qui était impressionnant. Et puis après, une fois de plus, ça retombe sur les femmes. Elles savent pas éduquer leurs gosses. Ils sont dehors de 7h à 20h à 22h. Enfin, du coup, je me suis dit, mais tiens, une fois de plus, que des attaques, que des petites attaques comme ça. Et comme elle le disait, Judah, oui, ça te met toi en tant que parent dans une situation où ton enfant, il entend tout le temps que ce que tu es, c'est de la merde. Et comment tu veux qu'il arrive à s'identifier et à apprendre ce que toi, tu lui transmets? Je vais dire, on a fait vriller aussi là, le cerveau de nos enfants. Et aujourd'hui, ça aussi, ça peut expliquer beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de nos enfants qui ont des problèmes de construction d'identité. Et après, des fois, moi, j'entends « Ah, ben, c'est bizarre, quand on lui dit « Tu viens d'où ?» Il se sent d'abord algérien, marocain, tunisien, malien, et que c'est pas quoi. Je dis « Mais tous les jours, vous leur dites « T'es pas d'ici ». Tous les jours, on te dit « T'es pas d'ici ». Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit, le gamin ?« Ben, tu sais, on est des êtres humains, on a un minimum de fierté. » Tu dis « Ok, ben ouais, je suis pas d'ici ». Après, tu l'assumes et tu t'accentues même le phénomène. Bon, ça, c'est le premier élément. Mais dans le deuxième élément, tout ce qu'on a vécu, on est toujours resté dans la séquence émotion. Et à aucun moment, on s'est mis à analyser. On s'est mis à analyser en se disant, mais comment un jeune de 20 ans qui a grandi dans un pays, d'accord ? Quand on est jeune, on a 20 ans. Franchement, de vous à moi, 20 ans, on faisait quoi ? Mon week-end, il commençait le jeudi. Boîte, 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 boîte. enfin bref, c'était, on s'amusait. À 20 ans, tu t'amuses. Mais pour qu'un jeune, à 20 ans, il a un tel malaise qui le pousse jusqu'à se tuer et entraîner avec lui d'autres personnes. Mais je dis, mais personne ne se pose la question. Il s'est radicalisé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'est radicalisé. La société n'y est pour rien. Quand depuis la crèche, on te regarde, on te met au banc et que tu luttes. Et à un moment donné, on n'a pas une part de responsabilité. Quand vous êtes parqué sur des zones géographiques définies, style zone de non-droit, ceci, cela, où les règles de la République ne s'appliquent pas, la société y est pour rien. Comment on peut expliquer qu'il y a des écoles, dans la classe, tu regardes, il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité. Et après, on vient dire, ah ben tiens, il parle avec un espèce d'accent. Eh ben, ils sont en échec scolaire. Ah ben là, ça marche pas. Non, mais on va leur donner plus de moyens. Qu'est-ce que c'est que ces moyens ? L'école qui est à côté, ils ont absolument pas les mêmes moyens que l'école internationale de Grenoble. Et c'est mes putains d'impôts qui payent les deux écoles. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ?
On va faire une pause musicale. Et on va écouter.
J'avais pensé à Barba Papa de Médine, spécialement pour les identitaires, qu'il a sorti récemment. Petite dédicace.
Sur Dégenré, dans une émission contre l'islamophobie, sur Radio Campus 90.8.
Ça m'a répondu, c'est peut-être les identitaires.
On a grandi dans la ZUP, de toutes les couleurs comme une boîte de dragibus. C'est vrai que dans les tubes, s'il y avait de la poudre, et ben c'était pas du sucre. La conso dans les sachets, 2-3 fraises, tagada et quelques têtes brûlées. Faut jamais que vous sachiez à quoi servent le taga et les feuilles à rouler. On a grandi dans la zone, vendu leur église. Y'avait plein de bâtiments faits en pain d'épices. Les bracelets de la police étaient des friandises. On mangeait leur coup de matraque comme des Mr. Freeze.
Opération communication pour ces membres du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire.
C'est la bière de la mandin, nain, mais c'est de la guimauve. Mais la bière de la mandin, nain, c'est de la guimauve.
La barba papa, au prochain danse des on veut marrer mon pignata. La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marrer mon pignata.
Mes robes mi-asia comme un mal à barbigou. Une gueule de yakuza mais je dis ça la marre les coups. T'as déjà mélangé les manteaux c'est le coca. C'est Emma 2S, Sarah Bian, Son Gokan. J'arrive au quartier, croise une petite mignardise. Je lui offre un chocolat, elle veut un Kinder surprise. Ce sera pas du gâteau si je te pitche la suite. Je l'ai abandonné pour une partie de switch.
Aujourd'hui je suis le fils de Medine, mais demain c'est Medine qui sera le père de ma soude. De lui j'essaierai de me montrer digne. J'irai chez le dentiste avec sucette dans la bouche.
Tellement punché dans moi, caché comme les phrases dans les biscuits chinois. Je veux l'avenir de ce monde, leur dernière vision serait une barbe et des tombes.
La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marrer nos pignatas. La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marrer nos pignatas.
La barba papa, la barba papa, que
de
ça
qui?
Marine en
pignata. Ah oui, on veut marine en pignata.
Et en fait aussi, moi, ce que je veux ajouter pour rebondir là-dessus, ce que fait la France, justement, avec ce genre de loi, elle occulte, elle permet d'occulter un sujet qui est assez important, qu'on évoque, qu'on essaye d'évoquer avec le FIQP ou d'autres groupes. C'est le racisme d'État qui est mis en place, en fait, dans ce pays, qui fait qu'on est sous plein d'aspects considérés et traités de manière différente, que ce soit en termes de logement, en termes de travail, en termes, dans tous les sens, en fait, au niveau social, on est traité différemment. On n'a pas les mêmes accès en fonction de là d'où on vient, de là où on est né, à tous les services de la société française. Donc ça, en fait, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder, que la France ne veut pas aborder. D'ailleurs, la dernière fois où, en fait, les immigrés, enfin, ou plutôt les descendants de la colonisation, c'était des Français, ont agi en tant que citoyens et ont apporté des sujets comme ça sur la table, c'était dans les années 2000. Il y avait énormément de mobilisation des Français issus de la colonisation qui abordaient l'histoire de la colonisation, l'héritage de la colonisation, la guerre d'Algérie, la torture. La guerre d'Algérie était revenue sur le tapis. Mais il y avait aussi la question du droit de vote des étrangers qui était abordée, la question de la double peine. Et en fait, tout le champ politique, à ce moment-là, a eu peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis en place leur appareil idéologique qu'ils mettent en place régulièrement. Donc la loi, le débat nauséabond sur le voile. Et l'opération Ni pute ni soumise, pour nous considérer, toujours nous ramener à la question de, en fait, les sauvages, c'est les gens des quartiers, c'est les hommes des quartiers. C'est surtout pas, en fait, la société française qui est patriarcale, qui est sexiste aussi. Donc voilà, cette loi, elle est éminemment raciste, elle est sexiste aussi, et elle est totalement, en fait, elle tire en plus son... On peut la relier directement, en fait, à l'histoire coloniale. À partir du moment où, pendant la guerre d'Algérie, même avant la guerre d'Algérie, il y avait des bureaux, des affaires dites indigènes, avec des membres de l'administration française qui ont travaillé de pair avec des ethnologues, avec des sociologues, pour réfléchir à comment récupérer la femme algérienne autour du sujet qui est le port du voile. À l'époque, cette stratégie, elle a été pensée dans la guerre. Elle a été pensée, elle a été travaillée. Après, donc l'administration, ça a été vraiment toutes les personnes qui travaillaient dans l'administration coloniale française, en fait, les assistantes sociales, les profs, les enseignants, etc., dès qu'ils voyaient une femme algérienne qui portait le voile, ils essayaient de la ramener, enfin, ils essayaient de la voir de leur côté. Donc, ils ont organisé des cérémonies de dévoilement, ils essayaient de faire en sorte qu'elles enlèvent le voile, etc. Et parfois, ça a marché. Et quand ça fonctionnait, ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre. Quand ils voyaient des femmes algériennes dévoilées dans la rue, ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre, vraiment. Je relisais juste un petit passage de Fanon. Ça permet de ne pas avoir d'illusions. Parce que là, il s'agit des textes de l'administration coloniale pendant la guerre d'Algérie, qui disait « Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l'homme les cache. » Voilà, ça permet d'être plutôt au clair sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est une logique qui est pensée, et en fait, cette histoire-là, la France ne veut pas l'aborder parce qu'on est encore dedans. Parce qu'elle doit, en fait, si on aborde cette question-là, je veux dire, aux États-Unis, ça fait des années qu'ils sont en train de parler des réparations qu'ils vont accorder. Là, ils sont en train d'en parler sérieusement. Des réparations qu'ils vont accorder aux descendants de l'esclavage, justement, pour les crimes commis. Mais en France, c'est même pas envisageable d'aborder ça. Parce que si on aborde ça, en fait, le pays coule. Sauf qu'en fait, on est présent et que de toute façon, il y a des moments, à un moment donné, il va falloir en parler de cette histoire-là. Parce que sinon, on pourra pas vivre ensemble, justement. Il est là, en fait, le vivre ensemble. Il est là, dans le fait d'assumer aussi cette histoire-là, de l'assumer pleinement, d'en discuter, de voir comment elle a encore lieu aujourd'hui, comment on est encore victime de ce racisme-là qui a été mis en place sur 5 siècles d'esclavage et de colonisation, en fait. On ne peut pas en sortir comme ça. Et là, en fait, c'est aussi une stratégie de l'État de faire les lois séparatisme. On va parler des drapeaux étrangers dans les mariages. Non, mais c'est quoi cette blague? En fait, c'est quoi ça? Là, on parle de là. En fait, on peut revenir au sujet sérieux là, vraiment qui constitue la société, qui sont en fait la casse du service public, de tous les droits qui sont amputés au fur et à mesure, etc. Des violences policières, du racisme, du sexisme, etc.
La loi sur le séparatisme, mais c'est une loi, elle est sexiste, archi-raciste, sexiste. quand on parle de l'excision, quand on parle du certificat de virginité, quand on parle de choses, en fait, encore une fois, hein, c'est comme la loi sur le voile, là, hein, en 2004. C'est des épiphénomènes, c'est des choses qui s'inscrivent à la marge de la société. Et après, il y a des femmes qui se battent contre ça, mais la France, en fait, dans son droit à elle, bah, tout ça, c'est interdit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de légiférer sur des choses comme ça et faire comme si, en fait, c'est, nous, nos, les femmes, en fait, elles vivaient comme ça et qu'il faut les sauver d'une oppression culturelle, patriarcale. Et donc, on pond une loi pour nous et nous, il faut maintenant leur dire merci. Et tiens, on va en rajouter encore une couche et on va demander aux jeunes filles qui ont 18 ans d'enlever leur foulard quand elles sont dehors. Et quoi d'autre encore là, des lubies là, mais elle est sexiste parce qu'en fait, elle s'attaque encore une fois à nous, les femmes. Elles nous réduisent à quelque chose d'objet sexuel, d'objet social. On parle pour nous qualifier, alors que des féministes musulmanes, il y en a plein. Des femmes qui ont participé à de la création, des femmes entrepreneurs, des femmes voilées, journalistes, tout ça. Dans le monde entier, on en voit. Il n'y a qu'en France qu'on n'en voit pas, parce qu'en France, ce n'est pas possible, en fait. Il y a une journaliste, elle a un petit peu montré son visage à l'écran, là, aujourd'hui, elle est menacée de mort. Et elle est menacée de mort juste parce que c'est une femme voilée, et voilà. Et bah, c'est une femme brillante, journaliste et tout, qui a réussi à entrer dans des plateaux de télé, parce que en général, quand on parle des femmes voilées, en fait, on est entre hommes blancs, et des fois, il y en a un qui vient pour nous défendre, hein, parce que nous, on ne sait pas parler. Mais voilà, le débat contradictoire qui est cher à une démocratie n'existe pas en France. Voilà, quand il s'agit des femmes voilées, on parle pour elles, on qualifie ce qu'elles sont, le quotidien, pour elles. Voilà, on parle pour elles, elle n'a pas de cerveau. Donc merci, News, machin, de parler pour nous. Voilà. Mais nous, on n'est pas des femmes opprimées. On fait nos choix. On les fait avec notre libre arbitre. Et c'est pas la République qui nous a dicté notre libre arbitre, il existe en fait dans notre religion, voilà. Mais ça encore, il faudra l'entendre. Et on fait ce qu'on veut. Et j'ai le droit d'être ce que je veux, et j'ai le droit de m'habiller comme je veux, et j'ai le droit aussi de défendre toutes les copines qui sont pas voilées. Je connais pas leur beurre, je connais pas leur vie. Moi, je milite pour qu'en fait, on soit solidaires en fait, dans la lutte. Et même si on ne se comprendra pas sur plein de trucs, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on certainement qu'on ne se comprendra pas. Pourquoi je vais t'obliger à comprendre que je porte un voile, enfin, en fait, ça ne te regarde pas. Et moi, je n'ai même pas envie de t'expliquer, en vrai. Tu vois voilà. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, quand on dit qu'on vit dans un État démocratique, l'égalité, nanana et tout, et ben, moi, j'aimerais qu'en fait, ça, ce soit des principes qui soient appliqués. Aujourd'hui, comme le disait Sabrina, le racisme systémique, en fait, il a été dénoncé dans le dernier rapport Tout Bon en 2020. Hein, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et Tout Bon, c'est quand même une personne. Enfin, il a fait du chemin hein, quand même hein, pour qu'il en arrive à sortir un rapport comme celui-ci. C'est qu'en fait, l'ampleur des dégâts en France concernant le racisme, c'est tellement grave qu'en fait, même un mec de droite comme il était, il s'est transformé, ce gars. Et le rapport, et moi je vous invite à le lire, enfin voilà, il dénonce les crimes racistes dans la police, il dénonce un racisme systémique, à tous les endroits, comme tu disais Sabrina, le logement, l'emploi, les stages, partout, les discriminations existent et elles sont produites par des institutions qui sont censées représenter l'État, des services publics. Donc aujourd'hui, plutôt que de taper sur la tête des gens qui n'ont aucun pouvoir politique, parce qu'effectivement, on n'est pas représenté en politique, hein, les femmes, elles sont représentées depuis très peu en politique parce qu'il y a une loi. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cette loi, elles seraient en train de courir encore avec leurs talons aiguilles et leurs mini-jupes. C'est ça ? C'est comme ça qu'on a envie de les représenter. Voilà, il y a eu une loi pour que les femmes, en fait, elles puissent entrer à 50-50 en politique. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ça, après, chacun son jugement. Tout le monde le sait. Qu'en France, il y a du racisme systémique, il y a du racisme qui est infiltré partout, le logement, le travail, partout.
Toujours à l'écoute de Radio Campus 90.8 dans Dégenrer, une émission qui aujourd'hui est contre l'islamophobie.
Moi, j'étais partie sur la lettre à la République de Kerry James.
lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France, j'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime, que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vous compartent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Bah, le seul levier, c'est la lutte, à mon avis. De toute façon, à partir du moment où des groupes de personnes ont acquis des droits, c'est à partir du moment où elles se sont battues. Et là, en fait, on est coincé parce que, en fait, on nous met en face le terrorisme. C'est validé dans la cité française. En fait, il y a quelques individus qui ont fait complètement n'importe quoi. Mais c'est validé qu'en fait, maintenant, les musulmans sont potentiellement des terroristes. Alors ça, c'est une théorie totalement raciste, en fait. Quand on prend le comportement d'individus, qu'on le généralise à une communauté, ça s'appelle du racisme. Donc voilà. Et là, le problème, c'est qu'en effet, les musulmans, en effet, ont peur de sortir, parce qu'ils ont peur d'être amenés à ça, parce que c'est tellement validé tous les jours, à base de répétitions de propagande dans les médias, en fait, que les gens se disent, en effet, bah, comment, si on bouge, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que c'est compliqué pour nous de se battre, et que du coup, il y a besoin absolument de solidarité, de liens.
Et du coup, je pense que la population française ne se rend absolument pas compte qu'on est mis sur les bancs par rapport aux pays étrangers, même ne serait-ce que par rapport aux pays européens, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en France. Ces lois successives là, qui rejettent une partie de la population. Il y a des débats qui sont à l'extérieur. Le président se déplace et va justifier Il va jusqu'à aller justifier pourquoi il prend ces dispositions-là. Il se fait allumer. Mais par contre, en France, au niveau national, on n'en entend quasiment pas parler. On n'en entend pas parler. On n'entend pas parler non plus quand... parce que du coup, la France continue aussi sa politique impérialiste en Afrique. Bon, souvent, on se dit, oui, bon, la décolonisation, on peut enlever le dé derrière. Hein, on est encore colonisé. Bah, après, la forme, effectivement, elle a changé. Il y a moins de... elle est moins guerrière. C'est sûr que maintenant, on ne nous coupe plus les mains et on nous viole plus. Et encore, hein, bah, Centrafrique, je ne peux pas dire ça, parce que s'il y avait des Centrafricaines, elles me reprendraient. Bon, enfin bref, parce que l'armée française, notre armée, elle est partie en Centrafrique. Elle a violé des femmes. Le procès, toujours pas abouti, toujours pas de sanctions, toujours... Enfin bref, et je ne vous dis pas non plus ce qui se passe dans le nord du Mali. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Donc, du coup, il y a toujours cette politique impérialiste qui est de plus en plus contestée dans les pays dans lesquels ça s'exerce. Et du coup, on n'est pas informé, en fait, de ce qui se passe de ce côté-là. Et que ça aussi, il y a un effet boomerang qui va arriver. Parce qu'il faut que les gens comprennent que, en fait, l'économie française est annexée. Par exemple, avec notamment la relation qu'on a avec le franc CFA. Bon, on va pas le développer ici parce que ça serait trop compliqué, mais je donne juste des pistes pour que les gens aillent se renseigner sur ce que ça donne. Et les pays, là, notamment, sont en train de rejeter ce franc CFA parce que c'est un outil de colonisation qui les empêche aussi de se développer et de pouvoir, entre guillemets, commercer de façon, équilibrée avec les autres nations. Du coup, ils ont proposé, soi-disant, on va abolir le franc CFA et on va mettre un autre truc à la place. Mais ils ont juste changé le nom. Hein. Je vais dire, c'est juste, j'ai changé. C'est comme si vous prenez, j'en sais rien, des Pyrénées et que vous les mettez dans une autre boîte voilà, et que ça s'appelle autrement. Mais bon, mais c'est exactement la même chose. Et je pense aussi qu'il faut que la France, que les Français prennent conscience vraiment de la façon dont on est perçu à l'étranger et que ça arrange pas non plus nos affaires.
Ouais, pour compléter ce que tu dis, je pense que c'est super important comme sujet parce que c'est encore un autre sujet qui est occulté par toutes ces lois, justement, comment la façon dont les médias... aborde la question des musulmans, de la loi séparatisme, etc. On parle pas du tout de l'impérialisme français en Afrique. On parle pas non plus du rapport Duclert qui est sorti, là, récemment, en fait, la semaine dernière, sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est une information qui est passée à la trappe. Mais voilà, en tout cas, il y a énormément de mouvements anticoloniaux dans différents pays d'Afrique. Il y a des manifestations. En Algérie, ça fait 3 ans que le peuple se lève contre les généraux qui sont de mèche avec la France. Ça fait 1 an qu'il y a des slogans, donc, que j'ai choisi de passer d'ailleurs dans l'émission, qui pointent directement le rôle de la France et qui s'adressent à la France et à Macron en disant « Macron, prends tes enfants et dégage ». Donc il y a aussi en Afrique énormément de peuples qui se soulèvent dans une logique comme ça anticoloniale pour pouvoir utiliser ses ressources et vivre. Et ne pas avoir à quitter leur pays. Enfin voilà, après les gens font ce qu'ils veulent, mais l'Afrique devrait pouvoir disposer de ses ressources.
Eh bien peut-être on va écouter le son dont tu parles. On est toujours sur Dégenré, sur Radio Campus 90.8.
Moi, je voulais passer un extrait des slogans de la Révolution algérienne d'il y a 2 semaines pour rendre hommage à la Révolution algérienne qui a maintenant 3 ans. Et où ce slogan, la population dit, là ça va être en derja, mais la population dit « ça fait 60 ans que l'Algérie est française, nous on la préfère algérienne, dégage, dégage ». Ensuite, il cite le nom d'un colonel français qui était pendant la guerre d'Algérie et ils disent en fait que c'est encore lui qui est aux commandes.
Yeah. juin 2020, il y a eu aussi beaucoup de manifestations qui ont été relayées en France sur les questions des violences policières, notamment à Grenoble. Il y a eu quand même de grosses mobilisations organisées en partie, je pense, par le FUIQP. Ouais. Et du coup, on se demandait peut-être si vous voyez une forme d'espoir ou une forme de... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a, malgré tout ce qu'on a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose, une espèce de lutte transnationale en fait qui est en train de se mettre en place? Est-ce que vous voyez des choses positives? Enfin, voilà, même si le contexte évidemment n'est pas du tout réjouissant.
Sur la lutte, sur ce qui a eu lieu cet été avec énormément de manifestations qui ont eu lieu après l'assassinat de George Floyd, pour moi c'est une continuité de toutes les luttes antiracistes, anticoloniales et luttes de l'immigration qui ont lieu depuis des décennies en France. Enfin, voilà, sur le travail que j'ai fait dans, avec le film Les couleurs privilèges, j'ai pu observer en fait toutes les luttes qui ont eu lieu précédemment, à partir du mouvement des travailleurs arabes, ensuite avec le mouvement d'immigration et des banlieues. En fait, tout ce qu'on voit de temps en temps comme ça, quand il y a un événement qui, en fait, c'est un peu, quand il y a un événement qui est l'événement de trop, c'est un éclatement en fait des mobilisations avec beaucoup de personnes d'un seul coup. Mais moi, ce que j'ai vu en participant à ces manifestations donc qui ont été organisées, c'est aussi le fruit de travail qui a eu lieu depuis des décennies, même avant nous, sur les générations précédentes. Et justement, de ces luttes-là, l'État français, il essaye de bien les occulter parce qu'encore une fois, il veut pas qu'on existe en tant que citoyen. Et ça, c'est toujours le cas, ça a toujours été le cas. Dès qu'on existe de manière, on va dire, complète, avec, on essaye d'exister en fait de manière complète, donc en tant que citoyen dans la revendication et l'accusation, ce qui est tout à fait normal en fait, parce qu'on ne peut pas accepter que ce genre de choses se produisent, on est ramené à une essence, on est pointé du doigt et on nous sort une question, le voile, etc. Donc c'est vraiment... en fait, c'est une opération justement pour faire oublier les luttes de l'immigration et pour faire oublier le fait qu'on peut être des citoyens et qu'on peut se mobiliser. Systématiquement. Mais après, sur les liens avec différents pays, il y a eu des pays en Allemagne notamment où il y a eu des mobilisations. Et même sur la question de l'islamophobie, là, on a été sollicités, il y a des personnes qui ont été sollicitées justement pour intervenir à différents niveaux, au niveau international. En tout cas, il y a une organisation qui est en train de se mettre en place avec différents pays.
Oui, et puis moi, je pense aussi que... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue de là où je suis, mais j'ai l'impression qu'en fait, les classes populaires, en fait, elles sont en train de s'organiser un petit peu partout dans le monde. En Amérique du Sud, quand on regarde, on voit qu'il y a de la misère. Enfin voilà, il y en a qui profitent des richesses et d'autres, en fait, ils sont en train de crever de plus en plus de faim. Le Venezuela, c'est effrayant. Et je pense que, enfin voilà, d'un côté, j'ai un espoir, en fait, qu'il va y avoir une repolitisation. En fait, des mouvements populaires. Peut-être que le changement climatique fait que, enfin, toute cette mondialisation, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système et que on est en train de se réinventer. Peut-être pas avec les valeurs capitalistes qu'on nous a inculquées depuis toujours. Et il y a autre chose qui est en train de poindre. Et en même temps, j'ai peut-être là où en France, en tout cas, je suis assez. En fait, je regarde quelque chose arriver. Peut-être que je suis un peu pessimiste. Je voulais peut-être pas le dire, mais quand je vois comment en fait on est allé pomper les richesses dans les pays d'Afrique et que ces Africains arrivent en France et l'accueil qu'on fait, je me dis mais quand ça va vraiment être la merde? Et qu'il y a des endroits où on ne pourra vraiment plus vivre et que les gens vont devoir, par obligation, quitter leur pays et aller dans des endroits où il y aura un peu plus d'espoir de vivre. Je me dis qu'on risque d'avoir des choses assez violentes. Moi, j'ai en tête, en fait, ces identitaires-là qui sont allés à la frontière italienne empêcher des migrants entrer en France et qui ont préféré les voir crever. Des gens qu'on a retrouvés à la fonte des neiges, morts. Franchement, j'ai plus du tout confiance en l'humanité, en tout cas pas en ce qu'on nous vend en Occident. Et je me dis qu'on a intérêt de se préparer à ça. Et je pense que l'écologie politique, en fait, elle s'impose un peu. Et moi, c'est ça qui m'effraie, en fait. Je me dis, il faut absolument qu'en fait, qu'en Afrique, que même en Amérique du Sud, partout, il y a des gens comme ça qui peuvent retrouver une autre façon de vivre, reprendre leur propre richesse en main Eh bien, là, il va falloir trouver une solution, parce que cette coopération internationale, en fait, elle nourrit un intérêt très particulier. Je ne pense pas qu'elle nourrisse les petites gens dans ces pays, mais il faut qu'il y ait cette lutte-là, en fait, et que la convergence aussi entre les pays, elle aille aussi pour redéfinir un nouveau système alimentaire, parce que ça va être, l'alimentation, ça va être le truc le plus tendu, en fait. Hein. Et comme on est complètement dépendant économiquement, alimentairement, de l'Occident. Aujourd'hui, on coupe le robinet et c'est bon, hein, on peut crever. Et voilà, moi, ce qui m'effraie, en fait, c'est les enjeux climatiques et les flux migratoires qui vont arriver et la résistance qu'il va y avoir en Occident, hein, clairement. Et ça fait peur. Je me répète, hein, parce que ça me fait trop peur.
Bon, moi, je suis un peu plus... Alors, d'habitude, c'est moi la pessimiste.
Ouais.
Mais bon, moi, je suis un peu plus mitigée parce que trop d'oppression tue l'oppression, en fait. Enfin, chez nous, il y a un proverbe qui dit, tu sais, quand tu prends le serpent, la personne a peur du serpent, tu lui fais, et à un moment donné, elle va prendre le serpent et elle va le retourner contre toi. Et quand je fais mes allers-retours, là, bon, quand je discute un peu avec la diaspora, enfin, je parle que pour l'Afrique de l'Ouest parce que je connais pas bien les autres coins, parce que l'Afrique n'est pas un pays. Ça aussi, c'est un concept qu'il faut qu'on arrive à expliquer et que les gens intègrent. Et que du coup, y a des cultures différentes, etc. Du coup, par exemple, quand je vois l'Afrique de l'Ouest, alors oui, on a été amputé. On a été amputé à plusieurs reprises. On a été amputé parce que Thomas Sankara avait donné une impulsion et la France l'a dégommé. Le dernier que la France a dégommé, c'est Kadhafi, qui était très panafricain et qui envisageait en fait les États-Unis d'Afrique, avec notamment, il voulait boycotter le FMI, parce que c'est le FMI qui affame les pays africains avec des conditions de prêt. Enfin bref, moi là où je reprends un peu d'espoir, c'est que la jeunesse africaine, elle, est en train de guérir de ce traumatisme de la décolonisation, a pris conscience que sa culture avait raison d'être, que sa spiritualité avait raison d'être. D'ailleurs, ça fait un gros débat parce que même dans l'Afrique de l'Ouest, pas mal de gens sont de confession musulmane, chrétienne, et commencent même à remettre en cause cela. Ils veulent revenir vraiment à une spiritualité de base avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. Donc du coup, il y a tout un mouvement de reconstruction en Afrique, et j'espère que ce mouvement de reconstruction, moi, va aboutir sur une révolution où on arrivera vraiment à se débarrasser de toutes les personnes qui sont à la solde de l'Occident. Là, moi, personnellement, j'ai cet espoir-là pour l'Afrique. Ensuite, pour l'Europe, pour les enfants qui sont comme nous, qui ont grandi ici ou qui sont nés ici, qui sont d'ici, en fait, au bout de la 2e, 3e génération, parce que moi, il y a eu mon père, il y a moi, il y a ma fille, et maintenant, je suis grand-mère. Donc, du coup, je pense que ce petit gamin, lui, se sent français, il se sentira français, intégralement français, et qu'à un moment donné, il va pas négocier comme nous, on négocie, parce qu'on est gentil, nous, en fait. On est encore dans l'explication. Ah ben non, votre loi, cette loi, elle est ceci, cela. Mais lui, à un moment donné, je pense qu'il dira, j'ai droit, je prends. Si tu me donnes pas, eh ben, on va monter sur le ring. Donc, tôt ou tard dans ce pays, soit vraiment nos dirigeants prennent conscience qu'il faut construire une société inclusive où chacun peut être ce qu'il est, et que la France règle ses problèmes avec son passé esclavagiste et son passé colonial. Et c'est un travail qu'il faut faire rapidement, en fait, si elle ne veut pas avoir une guerre civile sur son territoire. Et je pèse pas mes mots. Et ça fait, moi, je suis persuadée de ça. Parce qu'à un moment donné, quand t'es trop opprimé, eh ben, si la négociation ne fonctionne pas, eh ben, tu prends les armes. Et du coup, et c'est notre histoire qui nous le dit, hein. À un moment donné, la Révolution française, c'est parti d'un petit étincelle de rien du tout. C'est pas les intellectuels, les Lumières, là, qui ont fait la Révolution. C'est les mecs qui avaient faim, qui, à un moment donné, ils ont dit, on va à la Bastille. Donc, du coup, il y a des moments, je me dis juste, il faut avoir ça, ce spectre-là, je pense qu'il faut pas l'oublier. Un jour, tôt ou tard, des Français noirs, des Français un peu jaunes, un peu maghrébins, tout ce que vous voulez, donnez les qualificatifs que vous voulez, à un moment donné, ce seront des Français purs et simples. Et à un moment donné, ils diront, j'ai droit, je veux mes droits et je les prends. Et ils le prendront, soit avec diplomatie, soit avec force. Et ça, je me dis que nos politiques, il faut qu'ils l'entendent. De gauche ou de droite. Pour moi, gauche-droite, c'est la même merde. Parce qu'ils se cautionnent. Non, mais en toute sincérité, je suis désolée du mot, hein, il n'y a pas d'autre qualificatif. Parce que du coup, j'ai pas vu la gauche sortir quand il y a eu toutes ces lois liberticides. J'ai pas vu ça, au contraire. Ils ont cassé, ils ont même été à l'origine de la casse de certains mouvements de lutte. S'ils avaient pas été là, le premier mouvement qui a été lancé là, avec SOS Racisme, ils ont fait du n'importe quoi. Ils ont récupéré, ils ont cassé la première marche qui était partie de Marseille. Et ça continue. Donc du coup, j'ai pas plus confiance aujourd'hui aux partis politiques, en fait. Parce que ces partis politiques font partie des dominants et que du coup, comme dit l'expression, les loups ne se mangent pas entre eux. Et du coup, que chacun veut conserver ses petits privilèges et que du coup, on menace, on est une menace pour eux parce qu'ils le conservent, ils le transmettent. Mais voilà, donc moi, je suis pleine d'espoir. Je sais pas si je verrai ça de mon vivant. Mais ça va péter. Ça va péter. Et dans le nord et dans le sud. Et à l'est aussi, peut-être que ça va péter. Enfin, ça dépend où on se place. Mais donc, je fais allusion à l'Amérique du Sud.
Sur la notion de comment, en fait, le pays se considère, je pense que c'est super important, en effet, d'accepter, en fait, la réalité. Que le pays, en fait, ce pays, c'est un pays multiculturel. Et en fait, la France, elle est dans un mythe de l'homogénéité culturelle depuis des décennies, hein, depuis des siècles même. Elle a commencé avec ses régions. Ce qu'elle a fait avec ses régions au niveau culturel, hein, je parle, elle l'a pratiqué aussi avec ses colonies. Et en fait, c'est ça, en fait, la vraie problématique de la France comparée à d'autres pays ou d'autres empires coloniaux qui ont, à un moment donné, même s'ils ont toujours du racisme systémique dans leur pays, ils ont switché, ils se sont dit « Ok, bon, on a les descendants de la colonisation qui sont là, on est un pays multiculturel, notamment l'Angleterre. » Ils ont changé leur conception de l'identité du pays. Et en fait, ce pays en France ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger parce qu'il est dans une espèce de mythe de l'homogénéité sociale et culturelle, en fait. On va tous être pareils. Mais en fait, non, c'est pas possible. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc en fait, si on reconsidère pas ça rapidement... en fait, ça fait beaucoup de schizophrénie, je veux dire, même au niveau national. Et puis après, ça peut créer beaucoup de schizophrénie au niveau personnel, individuel, chez beaucoup de gens. Et en fait, c'est une nécessité, je pense, aujourd'hui. Après, on va dire, sur l'aspect culturel. Mais après, il y a énormément de nécessités au niveau social, économique, etc. à aborder. Mais si on veut parler vraiment de la question culturelle, enfin, même si c'est une notion, en fait, qui veut rien dire, parce que finalement, ça veut dire quoi? La culture, ça veut dire quoi? Même la culture, si on prend la culture algérienne, on peut pas parler d'une culture algérienne. Il y a différentes cultures en Algérie, etc. Enfin, ça veut absolument rien dire. Et c'est juste un outil, en fait, pour l'État et venir au-dessus des autres et dire, bon, voilà, c'est ça, en fait, la culture et vous êtes ça. Et, un moyen, en fait, de nous définir, en fait, toujours. Sauf qu'en fait, quand on définit les gens et quand on place des frontières comme ça à l'intérieur des gens, on leur fait la guerre. Et c'est ça qu'il faut que l'État arrête de faire absolument. Ils n'ont pas à nous définir, ils n'ont pas à nous faire la guerre. C'est à nous de nous constituer comme on le souhaite et comme on le peut, en fait. Parce qu'on est déjà issus de pays qui ont été dominés culturellement, structurellement, économiquement. Donc déjà, là, nos ancêtres ont assez souffert. Là, on veut juste vivre dignement et de manière intègre. Voilà, il faut absolument que ce pays reconsidère. Et quand je dis le pays, c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde, c'est la population, c'est l'État. Et donc travailler sur la façon dont les cours d'histoire sont abordés. Il faut absolument qu'on aborde, en fait, dans l'éducation, l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, l'histoire des immigrations, l'histoire des luttes des immigrations. Il faut absolument parler de ça, parce qu'on ne peut pas juste nier ce qui est la réalité, en fait.
C'est un déni encore et toujours avec les trucs. Ça se cache derrière les trucs de valeurs dites universelles, là.
Ouais, ouais, les fameuses valeurs universelles. Ouais, c'est. Et mais là, on est en plein dedans, hein. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on avance, en fait, à chaque fois que la France avance, en fait. Parce que moi, je pense que dans les quartiers, par exemple, ça fait longtemps qu'on peut donner des leçons de vie à beaucoup de monde sur la question du vivre ensemble. Hein, ça a été galvaudé, mais il n'empêche que voilà, c'est comme ça. Sur la solidarité, c'est voilà, dans les quartiers, ça existe. C'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Et puis ça existe dans plein d'autres endroits aussi. Mais il y a à chaque fois qu'en fait on avance. En fait, dans notre, dans notre présence en France, on devient visible. Il y a de la résistance. Tu parles de la culture. En ce moment, il y a de la résistance. Il y a une élue, là, ici, là, sur la métropole. Elle nous a fait un discours autour de la culture. Attention, c'est très important, la culture, vous voyez de qui je parle. Et c'était juste un scandale. Enfin, quand moi je l'ai entendu, je me suis dit, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Enfin, je veux dire, ils sont dans un déni, mais absolu. Et puis ces gens-là, ils sont représentants dans des. Ils sont à la présidence de certaines structures culturelles. Ils ont une vision de la culture extrêmement descendante et un déni de ce qui se passe en fait dans la société. Et c'est ces gens qui construisent des politiques culturelles et qui voient pas en fait le monde comme il agit, comme il interagit aussi. Ça aussi encore c'est un truc grave, cette espèce de culture là de en fait c'est aux autres de faire un effort pour s'adapter. Alors l'effort, on l'a vu, hein, les Bretons, ils se prenaient des claques quand ils étaient petits pour parler la langue française, hein, ils n'avaient pas le droit de parler dans leur langue, hein, et puis dans les autres pays où on parlait une langue locale, je pense qu'il y en a, ils l'ont vécu dans leur chair, en fait, hein, cette universalité, cet universalisme. C'est une vraie tradition, en fait, en France. Hein, c'est un mythe, en fait.
C'est un mythe, mais c'est aussi une logique, une stratégie.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils veulent absolument, pour les personnes qu'on appelle immigrées, qu'on réponde à notre fonction économique de travail, et le travail qui est aussi le travail qu'on... les travaux pour les immigrés aussi. Il y a des travaux qu'on met de côté pour les immigrés. Mais en fait, la logique de l'État, c'est juste de nous utiliser comme des objets. Comme des objets économiques, et qu'on reste dans cette position-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même bien pensé. Et ça a toujours eu lieu, ça a toujours été comme ça. On veut juste... Ils vont être dans une position d'objet du système capitaliste. Et sans rien sacrifier de leur culture. Parce qu'ils considèrent que si, en fait, ils acceptent d'autres cultures, ils sacrifient leur culture. Alors que leur culture, en fait, même leur culture, on ne peut pas la définir. Parce qu'il n'y a pas de... En fait, la culture, c'est l'interaction de l'homme avec son environnement. Donc, en fait, elle est constituée de nous. Et c'est la réalité, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est une vraie stratégie de nous ramener, de rester dans cette fonction économique-là et de ne pas sortir de cette fonction économique d'objet qui sert à la société.
Dans les années 80, le truc là de « prends 10 000 balles et casse-toi ». Bon, il y a le chômage qui arrive, là, le chômage endémique et tout qui arrive. Et une des solutions pour régler le chômage, c'était quoi? C'était de dire aux immigrés, rentrez avec votre famille chez vous, on vous donne 10 000 balles et au revoir. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on refuse aussi de composer avec une composante qui fait partie de la nation. Celle-là, on se dit, allez, on s'ampute et on leur donne un peu de sous et puis ils rentrent chez eux et puis ils vont voir. Ça a fait des dégâts, en vrai, parce qu'il y a des enfants qui étaient un peu grands, qui sont partis et qui sont revenus après. Et ça a brisé des familles aussi, cette politique. Mais effectivement, c'est parce qu'en fait, on nous considère comme des travailleurs. On est là que pour ça. Et ad vitam aeternam, c'est-à-dire mon père, moi, mes enfants. Et voilà. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Après, quand je vois les jeunes, quand même, comme ils se mobilisent, tout le débat là autour de l'islamo-gauchisme puant aussi, on voit quand même des jeunes qui se mobilisent. On se dit, bon, il y a peut-être une génération là, qui bientôt sera plus présente et peut-être que le débat, il va changer.
Et on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire avant qu'on termine ?
Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Un milliard de trucs ? Non, mais... Enfin, pour conclure, j'aimerais simplement dire qu'il faut que les gens prennent conscience que ça nous plaise ou non, je pense qu'on va devoir composer ensemble. Après, ça peut se passer dans la douleur ou ça peut se passer facilement. Moi, pour conclure, et j'espère que ça ne se passera pas dans la douleur.
Moi, j'aimerais juste faire un appel à mobilisation et à solidarité, puisque vraiment, je me dis que les musulmans, en fait, aujourd'hui, les Français qui sont des Français, en fait, ont peur, en fait, de se mobiliser. Il ne faut pas hésiter à rejoindre et à venir en soutien et à vraiment travailler. Là, je m'adresse aux personnes qui sont dans les milieux de lutte de gauche, les féministes, etc. Aux personnes blanches, vraiment, de travailler dans vos milieux pour aussi, parce qu'il y a du boulot sur la question de l'islamophobie et que là, on va avoir besoin de soutien. Et ce soutien, il passe aussi par, justement, travailler autour de vous.
Il y a tellement de choses qui ont été dites. Je repense à la petite fille et le petit garçon qui ont fait 11 heures de garde à vue quand il y a eu le meurtre de Samuel Paty. Et je pense que cette peine exemplaire pour des petits, du coup, c'est plus des enfants. Hein. On a l'impression qu'en fait, elle nous disait à nous tous, les musulmans, attention, hein, faites gaffe, hein, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Il y avait comme un message symbolique, en fait, derrière cette attaque. Et j'ai envie de dire, en fait, aux gens, n'ayez pas peur de militer, de sortir, comme Abdelmalek Sayed disait, on existe si on existe politiquement. Et c'est vrai, ça demande un sacrifice, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas se taire. Regardez, aujourd'hui, on prend la parole, on est là avec vous, on est dans les manifs. On a du mal à mobiliser, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Ont peur parce que, voilà, une petite de 10 ans qui se prend une garde à vue d'une journée sans ses parents, ben, ça pose vraiment question. Ça veut dire que nos enfants, en fait, comme disait Fatima Ouassak, ils sont désinfantilisés. Donc, on ne les voit plus comme des enfants, comme des enfants avec, sans filtre pour s'exprimer. Et, on les rend responsables de leurs propos de façon assez grave. Puis pour quelques mouvements que ce soit, parce que nous, on parle de notre, de là où on est, hein. Moi, je parle de l'islamophobie, moi, en tant que femme voilée, je pense qu'on a plein de sujets sur lesquels on peut aussi aller, mais on est tellement, enfin, je parle à titre perso, on est tellement focalisé sur cette lutte qu'on n'a plus d'espace, en fait, pour aller lutter ailleurs. Et moi, tout mon effort, en fait, c'est de continuer à avoir les injustices ailleurs, c'est de continuer à avoir le paysan qui crève, de continuer à avoir la question du chômage, de la casse du service public, et donc de rester quand même mobilisé, en fait, sur ce qui fait sens, en fait, pour nous. Et à toutes mes sœurs voilées aussi, moi, j'aurais un message à passer, c'est... sortez et mobilisez-vous, parce qu'en fait, il n'y a pas de lutte qui s'est faite sans casser les œufs. Et voilà, c'est une lutte qui est dure, mais c'est une lutte au moins qu'on aura le mérite d'avoir menée.
Eh bien oui, encore une fois, merci de nous avoir invités. C'était un très chouette moment avec vous.
Merci à vous.
On va s'écouter un dernier morceau. Je te laisse le présenter.
Moi, j'ai pensé à une chanson de Salif Keïta qui dit « Nous, pas bouger », qui est un artiste malien engagé. Alors, j'ai pas la mémoire des dates, mais il y a une année où c'était Pasqua qui avait expulsé, comme des chiens d'ailleurs, parce qu'on les avait attachés dans l'avion, etc., 201 Maliens. Le chiffre m'avait vraiment frappé, 201 Maliens qui avaient été expulsés, donc du coup qui étaient sans papier. Et en réaction à ça, il a fait une chanson, Nous pas bouger, qu'il chante en malinquais avec quelques mots français. En gros, il dit quelles que soient les capacités que le noir a pu démontrer, le blanc ne lui accorde pas son humanité et sa noblesse, en fait. Dans le refrain, vous entendrez les mots que vous pouvez identifier, police, siffler, et là, il dit « nous pas bouger ». En fait, il décrit la vie quotidienne à Paris, notamment Château Rouge, où il dit que quotidiennement, les flics ont le sifflet dans la bouche, ils sont en train de siffler, tout ça pour que nous, on bouge, et nous, on va pas bouger. C'est dommage parce que c'est une chanson qui date, et malheureusement, c'est toujours d'actualité, parce que ce qu'on nous demande, c'est soit de bouger, soit de nous cacher. Et en fait, on fera ni l'un ni l'autre.
Nous pas bouger, nous pas bouger, pas moyen bouger.
Écoutez un plateau radio contre l'islamophobie. Merci à Sabrina, Abby et Djouda pour le partage de leurs analyses et réflexions. Merci aux camarades de l'émission Dégenrée pour ce beau plateau. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site radiorageuse.net. L'émission Dégenrée vous propose aussi des ressources pour aller plus loin, notamment un lien vers l'émission Kif Taras, l'islamophobie, un mot des mots. Un lien vers un article qui s'appelle Séparatisme, quand l'exception devient la norme, de Fatima Kemilat. Un article de Joao Gabriel, l'islamophobie est un racisme, même si les musulmans ne sont pas une race, entre guillemets. Ainsi que la chronique de deux livres, Musulmane du monde aux éditions Face Cachée, et « À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» aux éditions La Fameuse, sorties ce mois d'avril. Et ça se retrouve sur Mediapart. Pour continuer sur ce sujet, vous pourrez entendre dans Libre Débat du 12, 19 et 26 mai une petite série radiophonique voilée, dévoilée, ces trois épisodes de 30 minutes à découvrir sur les ondes de Radio Galère. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation sur Radio Galère 88.4. Place à l'émission Une heure en Palestine.